qui est sociologue, chargé d'études et de recherches à l'INJEP, que certaines et certains d'entre vous connaissez sans doute, hein, l'Institut national des études de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et de l'éducation populaire, voilà. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Nous sommes très contents de t'accueillir, Chantal. Tu représentes l'INJEP aussi à l'Observatoire de la lecture des adolescents, de oui. Lecture jeunesse. La BPI participe également à cet observatoire. Ça a été l'occasion pour nous d'échanger sur nos terrains respectifs et notamment nos dernières enquêtes. Et je me souviens d'une conversation que nous avions eue sur... L'une des études récentes de l'INJEP sur les pratiques culturelles et les pratiques de lecture des adolescents en milieu rural, en MJC, en foyer, que j'avais trouvé particulièrement intéressante. Mais là, ce n'est pas tant le milieu rural dont tu vas parler, c'est au contraire un milieu beaucoup plus urbain que beaucoup d'entre vous connaissent, plus ou moins bien. C'est la question des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà, et je suis très content de te laisser la parole.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc je suis depuis ce matin avec vous en tant que professionnelle, bibliothécaire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je ne vais pas du tout vous parler à partir de là. Donc en tous les cas, j'ai appris plein de choses intéressantes. Et je vous en remercie, je trouvais ça vraiment passionnant. Moi, je ne parle pas du tout à partir de ce lieu-là. Mon champ de travail sont les pratiques artistiques et culturelles des adolescents. Les adolescents dont je parle ont entre 13 et 18 ans. Et ça fait des années et des années que je travaille sur leurs pratiques. Alors, je travaille sur leurs pratiques pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est à cet âge-là qu'ils ont le plus de pratiques artistiques et culturelles. Et qu'en même temps, c'est là où ils sont le moins dans les institutions. Donc je trouvais ça, cette curiosité intéressante. Et puis c'est le moment où dans leur développement individuel, c'est un des moments les plus importants parce que c'est à peu près le dernier moment où ils vont pouvoir faire un choix d'identité, un choix de ce qu'ils vont être eux-mêmes, quel camp ils vont choisir d'habiter. Donc pour moi, nous en tant que serviteurs publics, On doit faire attention qu'ils aient un maximum, un éventail de possibilités à la fois culturelles et artistiques pour être en position de meilleur choix. Voilà. Donc ça, c'est mon travail quotidien. À l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, je suis chargée de recherche à l'intérieur d'une équipe qui s'appelle la mission études et recherches. Il y a 10 chercheurs. Tous ces chercheurs travaille autour des jeunes et je vous engage très vivement à aller voir les recherches qui sont toutes en ligne à l'INJEP sur des sujets extrêmement différents mais qui sont extrêmement intéressants parce que ce sont les jeunes aujourd'hui. C'est ce qui se passe sur les jeunes aujourd'hui et que ce soit les adolescents sur lesquels je travaille ou les autres, ils nous racontent beaucoup du monde dans lequel on vit. Et donc, j'encourage tous les acteurs qui travaillent avec les jeunes, de près ou de loin, d'aller voir ces études. Alors, je vais vous parler d'une étude qui n'est pas tout à fait finie, hein, c'est vraiment un work in progress. Cette étude, elle se passe donc à un moment où j'étais en train de discuter avec Christine Détrèze, qui est prof de sociologie à l'ENS et directrice du laboratoire Max Weber à Lyon. Et je lui ai dit, écoute, c'est quand même incroyable qu'on ait si peu d'informations sur les pratiques artistiques et culturelles des jeunes issus des milieux populaires. Et elle me dit, oui, c'est vrai, c'est déjà la réflexion de Jean-Claude Passeron, il y a plus de 30 ans, en disant, nous sommes sur un point aveugle. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'informations sur ces pratiques-là. Alors, effectivement, on peut dire que les sociologues de la culture, parce que parallèlement, il y a une culture extrêmement, extrêmement riche hein, sur la question des pratiques artistiques et culturelles des jeunes, des enfants, etc. Mais très peu qui s'intéressent spécifiquement aux pratiques des jeunes issus des quartiers populaires. Donc, nous avons décidé de faire une étude ensemble. Donc, nous dirigeons une étude. qui s'appelle pour maintenant, encore en ce moment, mais je ne sais pas si ça va continuer, « Goût, pratique et usage culturel des jeunes des milieux populaires ». Et nous avons réfléchi à comment est-ce qu'on allait faire. Donc il n'était pas question, bien entendu, il n'était pas question de faire une étude quantitative, parce qu'une étude quantitative, ça coûte extrêmement cher et qu'on n'est pas très riche. Mais de toute façon, il n'était pas question non plus de faire une étude quantitative, parce qu'on n'avait pas les questions. Avant de faire une étude quantitative sur un milieu, il faut savoir quelles questions vous allez leur poser. Et on ne savait pas quelles questions on allait leur poser, puisqu'on ne connaissait pas leurs pratiques. Donc, on a décidé de faire une étude qualitative. Et cette étude qualitative, on a décidé de les placer vraiment dans des territoires populaires. Pour choisir ces territoires, on a choisi arbitrairement, on dit comme ça, on est vraiment dans des milieux populaires, hein, il y a le bas populaire et le haut populaire, on a choisi les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et on a choisi trois territoires différents. On a choisi deux territoires qui sont en périurbain, à la frontière du rural, qui sont un quartier qui s'appelle la Plaine de Lys, à Dame-Marie-les-Lys, pas loin de Melun, et un autre quartier prioritaire, à peu près à même distance, à Bourgoin-Jallieu, qui s'appelle Jean-Champfleury. Donc, on a à peu près les mêmes distances en kilomètres par rapport à une métropole, à une zone urbaine intense. Donc, on voulait voir si Lyon, Paris, voilà, comment ça se situait. Puis, on a voulu faire aussi un autre territoire pour savoir si le fait qu'il y ait une multiplicité d'offres, ça change la pratique ou ça change l'accès. Mais l'accès, c'est un mot que je déteste. Ça change la pratique des jeunes. Donc, on a pris une ville très proche de Paris, dans un quartier politique de la ville qui se situe à Villejuif, et donc ils peuvent directement se rendre à Paris en métro. Donc on a eu ces trois terrains-là. Voilà. Donc ensuite nous avons réfléchi à la manière dont on allait établir le questionnaire. Pour établir les questionnaires, on a déjà fait des questionnaires de jeunes dans les milieux populaires. On en a fait plusieurs, on en a rediscuté, on a créé un comité qui pouvait nous aider à reformuler nos questions. Et on a fixé un questionnaire, et chaque entretien qu'on a eu a duré entre une heure et demie, comme il est à peu près classique de le faire. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du terrain de la Plaine de Lys, donc à Dame-Marie-les-Lys. Ce terrain, c'est moi qui l'ai fait, et les entretiens ont été réalisés par Louis Jésus, moi-même, et nous sommes en train de le dépouiller, enfin de l'analyser avec Clémence Perronnet. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire que le nombre d'entretiens qu'on a eu, on a décidé d'abord de faire des entretiens en collectif, c'est-à-dire des entretiens entre 4, 5 ou 6 personnes, toujours de jeunes de 13 à 18 ans. Et on avait eu 20 entretiens individuels où l'obligation, c'était d'avoir moitié fille, moitié garçon, puisqu'on voulait bien entendu voir aussi comment le genre s'exerçait sur la question des choix culturels. Et nous avons donc, en finale, on a eu à peu près 35, entre 35 et 40 jeunes que nous avons interviewés. Alors, les premiers résultats de l'enquête pour la Plaine du Lys, en ce moment, se travaillent aussi les premiers résultats pour Lyon, enfin la région lyonnaise, et les résultats pour Villejuif. Donc, on ne les a pas encore. Nous sommes un peu plus avancés. Donc, nous avons fait ces entretiens. J'ai oublié de vous dire qu'on est resté 2 mois en observation dans le quartier prioritaire. Ça, c'était très important. C'était très important parce qu'on a eu une sorte de familiarité et une sorte de connaissance aussi de la façon dont la mobilité des jeunes et autour des institutions culturelles existait. Parce qu'une des questions qu'on se posait aussi, c'était qu'est-ce qu'ils ont comme pratique, comment est-ce qu'ils vivent les institutions culturelles dans leur quartier ou hors de leur quartier, quel rapport ils ont avec elles. Donc on a tourné autour des théâtres, il y avait un espace jeune, il y avait des lieux sportifs, etc. etc. Donc ce n'était pas seulement uniquement des entretiens, c'était aussi une façon d'être là en permanence, et donc eux, ils se sont habitués à nous aussi. Donc c'était important, puisqu'on pouvait rentrer et sortir de toutes les institutions d'une façon assez facile, donc il y a une confiance qui s'est mise en place, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. On leur expliquait très clairement sur ce sur quoi on voulait travailler, qu'ils étaient absolument libres d'accepter ou de refuser de faire cette interview, etc. etc. C'était bien entendu un entretien semi-directif. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? Ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Hein. J'essaye vraiment d'avancer pour arrêter et vous donner la parole. Je trouve que vous avez des questions super pertinentes. Voilà, donc je continue. Donc vous connaissez peut-être pas, mais vous imaginez bien les spécificités des quartiers politiques de la ville, de ce qu'on appelle les QPV. Les QPV, c'est là où sont concentrés les plus pauvres. C'est les plus pauvres, les plus pauvres. Avec des taux de pauvreté, donc des pauvretés, donc on est à 60%, à peu près 60% de salaire médian, du revenu médian, on est sur des jeunes qui ont extrêmement beaucoup de difficultés scolaires, il y a beaucoup de chômage, il y a un taux d'étrangers qui est supérieur aux autres territoires. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un grand taux de familles monoparentales et il y a un grand taux de grandes familles. Et les bâtiments en général sont encore plus abîmés que les autres. Donc vous voyez, on est presque chez Victor Hugo. Mais ce n'est pas du tout l'impression qu'on a eue, d'autant plus que le quartier de la Plaine de Lys est celui qui a subi la plus grande rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'il est entièrement refait. Donc les grandes, pas la majeure partie, mais quand même une grande partie des tours ont été abattues, il y a des petits immeubles qu'ils ont faits, il y a des espaces verts, il y a des bancs, etc., etc., ce qui change effectivement la vision de la ville et la façon de circuler à l'intérieur de la ville. Alors, pour vous donner une idée, c'est que la population de tout le quartier, c'est un petit quartier, hein, c'est 8064 personnes. Je vous signale qu'il y a pratiquement 40% de moins de 25 ans. Une des spécificités du QPV, c'est aussi d'avoir une population extrêmement jeune. Le reste de la France, je vous signale que c'est à peu près 29,5%. La ville qui l'entoure, soit Damar et l'Hélice, a 21 000 habitants. Hein. Donc nous, on est sur un quartier de 8 064 personnes à l'intérieur de la ville où il y a 21 000 habitants. C'est, je vous disais, un territoire qui a réalisé sa rénovation urbaine et c'est vraiment... Et les jeunes nous en parlent énormément, donc c'est quelque chose qui les a beaucoup... qui les fait beaucoup parler. Il n'y a pas, à l'intérieur de ce quartier-là, il n'y a pas de centre réel. Avant, il y avait un centre, si on écoute ce qu'ils disent. Avant, il y avait un centre qui a été explosé. On a fait à l'intérieur de ce centre une place, mais une place qui est très difficile à occuper. Parce qu'elle est en petits carrés et les sièges où on peut s'asseoir, ils sont qu'à deux personnes et ils sont loin les uns des autres. Ce n'est pas très compliqué quand on veut que les gens ne soient pas ensemble. Je veux dire, de construire un... Et du coup, effectivement, la place, elle est vide. Donc, voilà. Sur ce petit territoire, bon, en dehors des établissements scolaires, le collège, effectivement, est en REP, il y a une salle de spectacle, une bibliothèque, médiathèque sur laquelle je reviendrai, une maison de quartier qui s'appelle l'espace de jeunes, il y a un espace, c'est un grand espace, hein, je ne sais pas combien de millimètres carrés, qui s'appelle la cartonnerie, qui contient divers loisirs, sur lequel je reviendrai aussi, dont une salle de spectacle. Et à l'intérieur de cet espace-là, sont aménagés beaucoup de terrains de sport. La question du sport est l'offre des questions du sport sur les QPV est une, comment dire, est un souci réel. On essaye de mettre un maximum de terrains de sport sur les jeunes, pour que les jeunes se défoulent autant qu'ils peuvent. Donc, dans cette idée, je voulais revenir rapidement sur ce qu'on voit d'ailleurs sur cette question de la pratique sportive est extrêmement intéressante. Parce que tous les jeunes, hein, tous les interviewés, font, sauf un ou deux, sauf deux, font du sport. Mais ils ne font pas un peu de sport, ils font beaucoup de sport. Et ils font beaucoup de sport, pas dans un club, ni dans une fédération, mais d'une façon informelle. Donc c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'espace public hein, qui leur est offert. Alors dans cet espace public, il y a des parcours de muscu, il y a les terrains de foot, il y a des parcours de course qui sont faits. Ils ne sont pas loin de la Seine, donc il y a aussi un aménagement en bord de Seine qui est extrêmement occupé par les jeunes, dans lequel ils font des barbecues, etc., etc. Alors le sport a une valeur très forte, c'est très clair. Il faut être en bonne santé, il faut être sportif, et c'est une affirmation de soi importante, mais aussi en faisant du sport, on fait ce qui est extrêmement important pour les jeunes ados et sur lequel j'aurais dû vous parler tout de suite, c'est la question bien entendu des liens, hein, des liens amicaux, des liens avec les pairs. Donc l'occasion est aussi une façon de raffermir les liens avec les pairs, on joue avec les copains au foot, etc. Mais aussi, c'est des liens familiaux qui se trouvent là absolument confortés. Donc, il y a une autre notion qui revient quand on leur parle du sport. Ils disent, mais on aime ça, quoi. Il y a une envie, un plaisir, je sais pas, moi j'étais extrêmement étonnée par la notion érotisante, entre guillemets, hein, sans aller trop de ce plaisir insensé que c'est de faire du sport en dehors de l'école. En dehors de l'école. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les filles et les garçons font du sport. C'est que les filles et les garçons font du foot. Ce n'est pas par hasard que nous avons une équipe féminine de football. Dans les pratiques populaires aujourd'hui, il y a énormément de filles qui jouent au foot. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous situer, c'est à la fois, et c'est pareil pour les pratiques culturelles ou les pratiques artistiques, ils ont une activité intense, mais il faut que ce soit à bord, à côté, et pas dans l'institution. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire en institution? Alors, il y a l'école. Je vais revenir sur le rapport à l'école qui est difficile. Alors, il est difficile. Je pensais qu'il allait être plus difficile que ça. Non. Bon, on n'aime pas trop quand même. En général, on va à l'école pour voir les copains. Il faut que ce soit clair. Sinon, se lever le matin, etc., pour aller à l'école, là, c'est très difficile. Mais moi, je pensais que ça aurait été plus, comment dire, qu'il y aurait eu un rejet plus fort, ce qui n'est pas le cas, quand même, on y va. Donc, quelque part, on accorde encore un peu de crédit à l'école dans ce qu'elle peut nous permettre de réaliser dans son avenir une vie professionnelle. Je pense que ce n'est pas un accord à 100%, mais on sent quand même qu'il faut aller à l'école parce que, voilà, il faut choisir un métier, c'est toute ta vie que tu fais le métier, etc., etc. Donc, il y a encore une part de rêve que porte l'école qui est encore portée par les jeunes. Alors, bien entendu, les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment à l'école? Alors, ils aiment ce que les profs qu'ils aiment font. En gros, c'est ce que j'ai compris. Si vous aimez le prof qui fasse de maths, de l'anglais, ça n'a aucune espèce d'importance, il peut faire des langues vivantes. On aime la matière. Mais c'est vachement intéressant. Il n'y a pas de goût, on n'a pas un goût pour le savoir qui est en dehors d'une personne. On est dans un transfert, quoi. On est dans une question de transfert permanent. Voilà. Alors, en dehors de ça, il y a une chose qu'ils aiment, et là, en dehors du prof, et c'est l'histoire. Ils aiment tous l'histoire. Parce que l'école, pour eux, c'est le lieu qui va donner des repères à la fois dans le temps et des repères dans l'espace. Et c'est ce qu'on lui demande à l'école. Et c'est là, à travers cette passion de l'histoire, mais c'est une vraie passion hein, dont je vous parle, parce que ça nous fait comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, ce n'est pas l'histoire immédiate, ça peut être le Moyen-Âge, hein, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout d'un coup, on donne sens à une collectivité. On donne sens à comment elle avance, comment elle fait, etc. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Donc, passion pour l'histoire. Qu'est-ce que j'ai encore à vous donner pour l'école ? Pour l'école, l'école fait son travail d'une façon très sérieuse. Elle emmène tous les jeunes qu'on a interviewés ont tous été au théâtre, ils ont tous été au musée. Quand on leur demande à quel musée ils ont été, aucun ne s'en rappelle. Qu'est-ce qu'ils ont été voir ? Peut-être on a 40% qui s'en rappellent avec des détails assez rigolos. Pour le théâtre, je dirais que c'est encore pire. Le seul truc qu'ils savent, c'est s'ils ont été au Louvre. Le Louvre a un capital symbolique extrêmement fort. On a été au Louvre, et qu'est-ce que vous avez vu ? Je ne sais plus. Il y avait plein de personnes qui étaient assises sur une table, et puis c'était très grand. Et puis voilà, c'est extraordinaire. Mais par contre, ce qu'on sent aussi, et ça j'ai été étonnée, c'est que la question culturelle est une question pour eux qui n'est pas si anodine que ça. Puisque plusieurs, je n'ai pas le temps de vous lire toutes les réflexions, mais je pourrais vous en donner, plusieurs ont dit, mais c'est bien quand même parce que ça peut nous aider, on peut apprendre des choses pour plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont quand même assimilé que la culture est un élément important de la société, de reconnaissance, est un élément de distinction. Ça, ils l'ont, à mon avis, ils l'ont parfaitement pigé. Bien sûr que d'autres vous disent qu'ils aiment aller au musée ou au spectacle parce qu'ils ne sont pas en cours. Ça, c'est clair. Il y en a un qui va au spectacle, il met ses écouteurs pour écouter PNL et pour pouvoir dormir tranquille. Alors, ça, c'est l'école. Donc, c'est très ambivalent. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé... Alors là, c'est une chose qu'il fallait que je vous dise tout de suite et que j'ai oublié de vous dire, mais j'en ai tellement oublié. C'est que toutes les banlieues ne sont pas des banlieues difficiles, ne sont pas des banlieues méchantes, ne sont pas des banlieues pleines de délinquants, ne sont pas des banlieues... Je vous le dis. C'est important. Parce que moi, je suis tombée dans... Je suis restée 2 mois à me balader et j'ai vu une ville... Est-ce qu'on peut dire normal ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, une ville normale, à mon avis, pour moi. Hein. Et les jeunes que j'ai rencontrés étaient exactement me faisaient des réflexions et des retours sur expériences et des théorisations et des façons de penser que moi, pour moi, n'était possible que dans les classes populaires. Alors vous imaginez comme je suis raciste. Hein. C'est absolument énorme. Je suis restée... Alors je ne sais pas. Le choix était aléatoire des jeunes, mais peut-être qu'on a choisi que... Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça reste. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait d'autres territoires qui soient abordés. Voilà. Alors, maintenant que je suis passée très rapidement, mais je peux revenir sur ce que vous voulez, je vous voudrais parler de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est le seul établissement qui est au cœur du territoire. Moi, je n'ai pas pu voir les bibliothécaires parce qu'elle était en transformation. Ils étaient en train de la rénover. Donc, je n'ai que l'avis des jeunes de ce qu'ils me disent sur cette bibliothèque. Et je dois dire, et peut-être que ça va vous faire plaisir, mais enfin, si mes jeunes n'étaient pas complètement spéciaux, ils trouvent que c'est il y a deux institutions dans lesquelles ils rentrent comme chez eux. C'est l'espace associatif qui n'est pas au centre de leur territoire, mais en lisière, à la frontière avec l'extérieur, qui s'appelle la maison de jeunes, et la bibliothèque. La bibliothèque, ils y sont comme chez eux. C'est le seul endroit avec, encore une fois, l'espace jeune, dans lequel ils se sentent parfaitement accueillis, parfaitement bien, etc. Donc, ils m'ont raconté, donc j'ai été assez éberluée, il n'y a, alors je vous ai calculé ça. Alors, ils vont, 50% des jeunes que j'ai interviewés, ils vont régulièrement à 50%. Alors quand ils disent régulièrement, c'est pratiquement 2 fois par semaine. Ou alors une fois par mois, le reste du temps. Parmi la majorité, il y a Non, parmi ces 50%, il y a une petite majorité de filles, puisqu'on sait très bien, avec les études qu'on connaît, qu'il y a plus de filles que de garçons qui vont à la bibliothèque. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a simplement une fille de plus, ce qui n'est pas vraiment... Ça ne nous donne pas vraiment beaucoup d'informations. Alors, la première motivation pour aller à la... Enfin, il n'y a pas une motivation, il y a plusieurs motivations. Mais quand même, la première motivation, c'est d'aller travailler. C'est justement parce qu'on n'est pas chez soi et qu'on est comme chez soi, qu'on va travailler à la bibliothèque, qu'on va travailler sur les ordinateurs, qu'on va réviser avec ses copains, qu'on va, etc. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était énorme. Et il y en a parmi eux un bon quart qui lisent, qui empruntent. Hein. C'est absolument extraordinaire. Mais ils empruntent à la bibliothèque, ils lisent dans la bibliothèque, etc. Cet objet, et je repensais à l'intervention qui a été faite juste avant moi, qui m'a beaucoup, beaucoup émue, parce que c'est vrai que les bibliothécaires sont prises avec le vivant. C'est-à-dire que je pense que sur ce territoire-là, ils ont travaillé comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient, ils ont super bien travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont été en accueil, ils ont été en accompagnement, puisqu'ils ont créé avec les jeunes des groupes de lecture. Ils les ont aidés pour des choses. Chacun nous parlait de l'aide des bibliothécaires, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils attendaient vraiment que la bibliothèque réouvre, parce que pendant ce temps-là, ils n'ont pas lâché la bibliothèque. Ils vont à Melun, mais à Melun, c'est moins rigolo. Je vous dis ce qu'ils disent. Donc, ça m'a beaucoup touchée, cette confiance absolue. Et ce n'est pas la première fois que je la rencontre à l'intérieur de mes études. Les adolescents qui sont insupportables partout, tout le monde les disant insupportables partout, hein, ce n'est pas moi qui le dis, bah, il se trouve que dans les bibliothèques, on arrive à gérer. C'est quand même étonnant. Je ne sais pas comment ils font, donc il faudrait voir cette histoire du silence avec eux. Donc, j'ai compris qu'il y avait des salles où on pouvait parler à l'intérieur de la bibliothèque. J'ai compris qu'on pouvait jouer à l'intérieur de la bibliothèque. Alors, ceux qui font rien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font rien sur le territoire du QPV, parce qu'il y a... Voilà. Eh bien, au lieu de faire rien, ils vont à la bibliothèque, parce que comme ça, d'abord, il fait chaud en hiver, ce qui est quand même intéressant, et puis, ça leur donne une autre sociabilité. C'est-à-dire qu'ils parlent autrement, ils font d'autres choses. Donc, voilà, ça fait partie de leur univers. Voilà. Donc voilà, bravo les bibliothécaires. Ensuite, pour terminer, parce que je pense que vous aurez deux ou trois questions, parce que j'ai énormément d'autres choses à dire, mais ça va être trop long si je me lance. Je voulais vous dire aussi qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils lisent. Bien sûr, puisqu'on a essayé d'avoir tous les répertoires. Répertoire de musique, répertoire de lecture, etc. Alors, je vais vous dire aussi une chose qui est incroyable, ils lisent. Mais alors, ils ne lisent pas obligatoirement sur support papier. La lecture sur support papier, c'est quelque chose qu'ils connaissent de moins en moins. Mais qu'est-ce qu'ils lisent ? Ils lisent énormément, c'est-à-dire qu'ils passent leur vie à lire sur leur portable. Ils lisent aussi des livres, des vrais livres, ils les lisent aussi, mais ils ne font pas de différence, ce qui m'a vraiment étonnée. Ils ne font pas une grande différence à la question des livres et du numérique. Le numérique est quand même ce qu'ils abordent avec le plus de facilité. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent ? Alors, ils lisent, par exemple, ils lisent les mangas. Ils lisent les mangas en papier, mais ils lisent beaucoup en scan. Je pense que vous voyez à peu près, voilà. Ils les lisent beaucoup en scan, parce qu'en plus, quand ils les lisent en scan, ils ne les payent pas. Donc, nous sommes dans un milieu où l'argent est, je veux dire, chaque sou est extrêmement important, et donc voilà. Donc, mais quand je vous dis « lise », je ne sais plus où est-ce que c'est, il y en a un qui nous a lu 30 tomes en je ne sais pas combien de temps. Ça faisait on avait pesé combien de... Ça faisait des kilos et des kilos de livres. Et donc, ils lisent tous. Ils sont absolument passionnés par les histoires de manga. Alors, bien entendu, il y a toute une littérature autour des questions de manga. D'ailleurs, nous, on a été étonnés de retrouver autant de lecteurs de manga, puisque normalement, les lecteurs de manga ne sont pas obligatoirement issus des milieux populaires. Mais ils avaient une très grande connaissance, hein, c'est-à-dire entre les différences entre les mangas pour filles, les mangas pour hommes, les mangas pour les jeunes filles, les mangas pour les jeunes hommes, etc. On avait droit à des cours entiers. Et il y a une recherche à l'intérieur du manga qui nous a été exprimée. Et ce qui est intéressant dans ces entretiens qu'on a eu avec les jeunes, c'est qu'ils avaient le temps de parler. Et ils nous ont raconté pourquoi ils avaient la passion des mangas. En fait, il y a la tentative d'avoir un modèle, enfin voilà, un modèle de héros, un modèle de héros qui n'est pas un modèle individualiste, pour moi en tous les cas, c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça qu'ils le disent, mais je veux bien discuter avec les spécialistes. Il y a dans le manga, on a des épreuves, hein, on traverse des épreuves de plus en plus, et grâce aux autres, et etc., et on devient de plus en plus fort, et on aide les autres. Donc il y avait une notion collective, enfin, qui vivait là, et qui me semblait parfaitement adaptée à la perte de tous les modèles qu'on peut avoir, nous, par ailleurs, dans ce qui construit un collectif. Donc voilà, alors à part ça, ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent d'autre ? Ils lisent, je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Wattpad. Alors il y a un site qui s'appelle Wattpad, que je vous conseille très vivement d'aller voir, dans lequel ils écrivent. Et ils lisent, c'est-à-dire qu'il y en a qui écrivent et il y en a qui lisent. Donc je vais vous dire à peu près ce que ça représente Wattpad, c'est énorme. Donc il a été créé, c'est une plateforme qui a été créée en 2006, qui a 65 millions d'utilisateurs. On peut rédiger depuis le téléphone, hein, parce que d'une semaine à l'autre, il rédige des histoires avec épisode et épisode. 70% des utilisateurs et utilisatrices sont des femmes, 45% ont entre 13 et 18 ans. Donc, pour eux, c'est leur littérature, courante, je veux dire. Bon. Alors, bien entendu, allez voir. On a eu la tentation un peu de se dire, puisque souvent, dans les histoires, on a un peu la sensation d'être devant Arlequin, quoi. Devant une littérature doucereuse, féminine, enfin avec tous les stéréotypes qu'on peut coller à la littérature romanesque, etc., etc. Et ben c'est pas tout à fait le cas. Donc on a fait une analyse qui développe ça, et on voit très bien que les filles en tous les cas qui lisent ça, mais les garçons aussi lisent. Hein. Ils ont parfaitement décrypté et donc ont été inventés, donc c'est un peu compliqué de vous le raconter, mais ils ont inventé d'autres formes qui a été développé dans cette littérature pour mettre plus de piment, plus d'inattendu, etc., etc. Et donc c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout devant un public passif. On est à la fois devant une écriture et devant un public actif. Et vraiment, ce qui le représente beaucoup à cet âge-là, c'est qu'ils sont tout à fait acteurs de leur propre production, de leur propre culture et de leur propre goût. Alors bien entendu, le fait qu'ils soient avec des pères, les précepteurs, de toute façon, ce n'est plus l'école, ce n'est plus la famille, ce sont à la fois les pères et la famille, excusez-moi, mais je disais la famille pour autre chose, pour ce qui est de l'ordre de la culture légitime. Mais sinon, ce qu'il y a de plus important, c'est les copains, c'est les frères et sœurs, ont une importance absolument extraordinaire, et la famille aussi. Alors, quand on a rencontré des jeunes qui avaient, par exemple, on a rencontré un jeune homme qui avait l'habitude d'aller au Louvre tous les dimanches pour aller voir à chaque fois une peinture différente. Donc on lui a dit, enfin moi je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au Louvre tous les dimanches ? Enfin, t'as autre chose à faire, quoi. Non, mais vous vous rendez pas compte, un tableau, c'est une énigme. Moi, je le regarde et je réfléchis et je le vois. Il y a plein de choses qui me viennent dans la tête, etc., etc. Moi, j'étais là, je dis oui, c'est intéressant. Et après, je lis, après, j'apprends. Ah oui, ah oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir, d'aller au musée Alors, il me dit que sa tante est guide de musée. Voilà. Donc là, on a des passages qui sont plus simples pour eux. C'est dommage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le bouleversement du numérique et du savoir, comme vous faites tous l'expérience à l'intérieur des bibliothèques, mais dont tout le monde fait l'expérience dans d'autres lieux culturels, on est devant un savoir qui ne donne pas la parole ni aux spécialistes, ni aux experts, ni aux finis. Maintenant, on est dans une espèce de transmission horizontale horizontale, tout le monde est expert, tout le monde sait, tout le monde fait, etc. Ce qui pose des questions et ce qui, en fait, réaménage un peu les choses. Mais c'est assez dur hein, de vivre avec, de soi représenter, par exemple, le livre comme les bibliothèques et de vivre avec ce séisme sur les savoirs en même temps. Donc voilà. Donc, et ce séisme-là, ça les a amenés à être vraiment acteurs. Et ils produisent énormément de choses. Là où on était aussi étonnés, c'est qu'ils produisent des façons de s'habiller, mais ils produisent aussi des façons de la musique, des morceaux de musique qu'ils mélangent avec d'autres morceaux de musique. Enfin, ils sont très inventifs, ils sont très, très, très créatifs. Donc voilà.
Est-ce que vous voulez en savoir plus?
Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave.
Sur le calendrier de l'étude...
Alors,
de
sur le calendrier, normalement, nous, on fait une première... Il y a l'étude qui va sortir à l'INJEP. Elle va sortir certainement vers octobre. Nous, on aura fini avant, mais le temps du travail éditorial... Donc, je pense que vers octobre, il va y avoir la sortie donc, sur une présentation des trois terrains et des questions qui nous prenaient la tête, soit quel choix culturel, quelle pratique culturelle et pourquoi, et de relations avec les institutions sur les trois terrains. Ensuite, il y a un livre à paraître aux éditions de l'ENS qui, là, va être des parties développées spécifiques, des vrais articles de fond de recherche sur des sujets différents. Nous sommes 5 sociologues. Hein. Je veux dire, il y a Christine et moi qui dirigeons l'étude, et en dehors de ça, il y a 5 sociologues qui sont en train de travailler sur le terrain.
Parce que ce qui sera intéressant aussi, c'est justement la confrontation avec les deux autres terrains.
Absolument. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. En tous les cas, je peux vous parler du mien.
Merci beaucoup. Je me demandais si, puisque vous dites que les frères et sœurs, la famille oui. comptent beaucoup, si vous envisagez de tester d'autres tranches d'âge ou plus tard de revenir sur ces personnes-là quand elles auront atteint un autre âge pour voir les évolutions des pratiques.
Il y a deux choses. On compte maintenant avoir des vraies questions pour une étude quantitative. Parce que ce qu'on a fait, c'est du quali, hein, donc avec le défaut et la qualité du quali. Le défaut du quali, c'est qu'on peut en faire une généralité. Donc, il faudrait qu'on ait du quali pour ça. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on voulait attendre pour voir 4 ans, 3 ou 4 ans après, faire une étude longitudinale avec les mêmes personnes dans 4 ans. Donc on a deux objectifs. Mais pour l'étude quantitative, ça coûte très cher. Donc il faut qu'on ait l'argent. Pour l'autre, on pourra se débrouiller.
Alors, ce qui s'est passé là, c'est que la bibliothèque était fermée. Pendant les mois d'observation.
Oui, c'est ça. Ils étaient, oui. Alors, quand on est resté sur le terrain, nous, ils étaient en vacances, hein. C'est-à-dire qu'on les a vus vivre dans la ville, pas du tout. Enfin, ils n'étaient pas à l'école, ils étaient en vacances. C'était donc mi-juin jusqu'à mi-août. Et donc, ils tournaient autour de la bibliothèque, ça ne servait à rien puisqu'il n'y avait rien, ou ils essayaient d'aller à Melun. Mais visiblement, ils ont créé des liens avec les bibliothécaires. Ça, c'est clair. Puisque je vous dis, il y a un club de lecture qui s'est monté avec eux. Entre les deux filles que j'ai interviewées, il y avait 3 filles et un garçon qui avaient monté un club de lecture.
Je parle de cette fermeture parce que je pense à... un autre travail de terrain dans lequel nous sommes engagés. Je ne sais pas si Marion Moulin est encore là. Elle est toujours là. Voilà, la ville de Choisy s'est associée avec l'ABF et avec une chercheuse en psychologie sociale, Joëlle Bordet, pour un travail de pour une intervention en fait psychosociologique autour de la bibliothèque, en particulier autour de la bibliothèque principale de Choisy, avec, sauf erreur de ma part, un vécu qui parfois est un peu plus difficile, vu de l'intérieur en tout cas, on va dire, avec les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle voilà, j'insistais sur le fait que vous n'avez pas pu faire d'observation intramuros dans la bibliothèque.
Non,
vous avez des témoignages rapportés des
on
jeunes.
On n'a que les témoignages rapportés des jeunes.
Mais qui sont très positifs. Ouais.
Voilà. C'est-à-dire, sur les 10, il y en a un seul qui ne fréquente pas la bibliothèque. À l'intérieur, ils lisent les livres de jeunesse habituels, Harry Potter, etc. Voilà. Je veux dire, on se retrouve devant... tout le monde ne fait pas tout, mais on a une diversité. Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que la pratique est extrêmement diverse. On a l'impression que parce qu'on est sur un milieu populaire, on va avoir la même pratique partout. Mais ce n'est pas vrai. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce qu'on a vu dans le qualitatif. Maintenant, il faudrait que ça se confirme dans le quantitatif. C'est que ce qu'on a comme stéréotype ne fonctionne pas. Par la diversité d'approches qu'ils ont eux-mêmes des choses, quoi. Qui est extrêmement fine. Et on est resté assez étonnés. Et puis, voilà. On n'a pas pu, par contre, on a parlé avec la personne qui s'occupait de l'espace jeune, par exemple. On a été à l'espace jeune, on a vu ce qu'il proposait, on a vu, voilà. Donc ça, c'était beaucoup plus facile pour nous, puisque ça, c'était existant. Donc là, on a bien vu qu'il y a un travail, il y avait un travail avec les jeunes qui était très important. Le travail le plus important, c'est qu'ils pouvaient rentrer et sortir quand ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils rentraient et qu'ils sortaient. Et ça c'est intéressant. Si vous leur dites, vous êtes là obligatoirement pour 3 heures, ils s'en vont. C'est clair. Et là, ça rentrait, ça sortait, ça restait pas, enfin bon. Et cette liberté, cette capacité à ne pas s'engager, ce qu'on sait que pour les adolescents, c'est toujours un problème, faisait que des fois, ils restaient. Alors, ils pouvaient jouer de la musique, il y avait les ordinateurs, il y avait des jeux avec les animateurs. C'était très simple, enfin, il n'y avait pas... Alors, je vous dis pas, mais ça, je l'avais remarqué ailleurs, c'est le succès des jeux collectifs non numériques. Je dois dire que c'est extraordinaire. Moi, je ne pensais pas qu'on jouait encore comme ça.
Les jeux analogiques ?
Pardon ? Les jeux non numériques, je veux dire, n'importe quel jeu, ils adorent les jeux collectifs.
Les jeux de société ?
Les jeux collectifs, ils jouent aux jeux collectifs, enfin, comme moi, quand j'étais jeune. Voilà, c'est assez étonnant, quoi.
Ah, mais cette grande liberté, effectivement, ils vont la trouver à la bibliothèque aussi.
Alors, cette liberté, visiblement, je n'ai pas pu... Donc, le problème, c'est que je n'ai pas pu discuter avec les professionnels. Mais visiblement, cette bibliothèque doit faire un certain travail avec les jeunes... pour justement leur donner la capacité de rentrer dans cet établissement sans qu'ils se sentent enfermés. S'ils se sentent pris, c'est évident, c'est leur âge aussi qui fait ça. S'ils se sentent enfermés, ils s'en vont. Donc ils ont bien dû trouver pour réussir à monter un groupe de lecture, moi je trouve ça, mais un groupe de lecture pointu, hein, pas... Et voilà, donc ils font un sacré boulot. Alors il y a une réflexion que j'ai adorée dont j'avais déjà parlé à Christophe. Un autre, il dit oui, moi j'aime bien aller à la bibliothèque. Alors lui, c'était pas cette bibliothèque, c'était une autre bibliothèque. Et puis il dit ouais, moi je me suis fait virer 2 fois. Et je dis pourquoi? Il me dit mais il voulait que je lise. Mais c'est intéressant, c'est pas seulement une blague, quoi.
Oui, bonjour. Donc Marion Moulin, je travaille à Choisy et je suis d'autant plus intéressée par ce que vous dites qu'il se trouve que je connais bien l'équipe de Damarie Lélis de la bibliothèque. Donc je ne vais pas du tout parler en leur nom, mais en tout cas moi des retours que j'ai pu en avoir, je sais que pour eux ça n'a pas toujours été si facile.
Donc, Ça a été,
ils ont traversé des grosses périodes difficiles au sein de l'équipe parce que beaucoup d'incivilité, beaucoup de violence au sein de la bibliothèque. La bibliothèque a elle-même été physiquement attaquée, oui. Caillassée, début d'incendie, etc. Et ça a été très très compliqué pour l'équipe actuellement en place de travailler avec les jeunes, de travailler en partenariat avec la maison des jeunes à côté. et réussir à monter, enfin, et aboutir à des projets de cette qualité, et notamment des clubs de lecture. Mais voilà, il y a eu un prix quand même pour l'équipe aussi.
Il y a eu un gros travail.
Voilà, mais c'est d'autant plus intéressant d'entendre ce discours des jeunes, qui est extrêmement positif, et peut-être que nous, on aura la même chose finalement sur Choisy.
Mais il faudra vraiment que j'aille les voir pour leur dire, parce qu'ils sachent qu'ils n'ont pas travaillé pour rien.
C'est ça, et ce qui les a, parce qu'en fait, la structure a été fermée pendant les travaux, mais eux, ils ont déménagé dans un autre bâtiment qui était en plein centre-ville.
Mais ça n'a pas marché du tout, ça.
Et ils ont perdu tout leur public.
Voilà.
Voilà.
Ils ne voulaient pas du tout y aller.
Non. Mais l'équipe non plus.
Oui. Mais elle réouvre quand ?
Je crois que ça a rouvert déjà.
Bon,
je
vais aller les voir.
Je crois que c'était là à la rentrée. Oui.
Je vais aller faire une enquête pour comment ils sont arrivés.
Oui.
J'ai oublié de vous dire sur les 20 enquêtés qu'on avait, 18 étaient nés à l'étranger ou avaient un père et une mère nés à l'étranger. C'est beaucoup. Ils étaient choisis d'une façon aléatoire.
Bonjour, donc Élodie Le Mélédo, je viens de la médiathèque de Redon. Est-ce qu'il y a d'autres institutions culturelles qui fréquentent et dont ils vous ont parlé ?
La Maison des Jeunes.
Mais en dehors de la Maison des Jeunes, et de la bibliothèque.
Ça s'appelle pas la Maison, je vous ai dit autre chose là.
L'espace jeune.
Oui, l'espace jeune.
Mais par exemple, il n'y a pas de cinéma
Ah oui, excusez-moi. Il y a le cinéma. Donc, je ne vous ai pas parlé de la cartonnerie. Donc, ils ont un lieu de loisir. Excusez-moi. Pardon ? Oui, mais je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Dans la cartonnerie. Donc, c'est une ancienne vraie cartonnerie qu'ils ont récupérée. Mais je ne sais pas, c'est plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, il y a un karting, un bowling... un cinéma avec 10 salles de cinéma, du patinage sur glace et des restaurants. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant dans cette cartonnerie, c'est qu'elle n'est pas très loin. Elle est hors de leur quartier, mais elle n'est pas très loin. Donc ils y vont au cinéma. Le cinéma, ils ont des prix pour aller voir les films. Donc je crois qu'ils payaient 4 euros. Il me semble, la séance, 4 ou 5 euros. Et ce qui est intéressant, toujours pour cette histoire de support, c'est qu'ils vont au cinéma, mais moi, j'ai été très étonnée. Indifféremment, ils vous disent, oui, j'ai été voir ça, mais moi, je vais aussi voir les films sur mon ordinateur, etc. Ils n'enregistrent pas de différence entre le fait d'aller au cinéma et de prendre un film sur leur ordinateur. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Un, parce qu'ils ne peuvent pas se payer tous les films qu'ils ont envie de voir, il y a énormément de sorties. Et puis, pour eux, c'est pratiquement égal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la question, bien entendu, de la sociabilité. On va avec les copains au cinéma, mais on regarde aussi le film avec les copains sur l'ordinateur. Donc, moi, je préfère les films au cinéma. Mais la question du support numérique, il faut vraiment y réfléchir, hein, parce qu'ils le font. Et par exemple, ils lisent énormément de les nouvelles du jour. Ils ne les choisissent pas. Hein. C'est des choses qui vous arrivent, comme sur votre Android, vous avez les informes, et ils les lisent toute la journée. Ils lisent tout ce qui se passe. Ils ne font pas le choix de l'info. Mais ils lisent. Et des fois, quand ça les intéresse, ils vont chercher encore de... Comment ils vont au cinéma ? Ça aussi, c'est intéressant. Ils regardent les bandes-annonces sur leur téléphone. Si c'est un copain qui les emmène, etc. Mais sinon, ils regardent les bandes-annonces. Tout se passe par le téléphone. Et quand ils lisent, quand je vous disais Wattpad, ils le lisent sur le téléphone.
Oui, bonjour. Puisque c'est une étude sur les pratiques, les goûts des jeunes en milieu populaire, pourquoi il n'y a pas eu de choix d'aller interroger des jeunes en milieu un peu moins urbain ?
Ils sont pas urbains, eux. Hein. Ils sont au bord de Fontainebleau. Après, c'est que du rural. Hein. Ils sont à la frontière. Hein.
Je suis d'accord, mais on reste quand même dans la région parisienne avec certains 60 moyens.
60 km quand même.
C'est vrai, mais enfin, pourquoi ne pas avoir
c'est
été...
Pas la, c'est pas le rural.
Voilà, dans des quartiers peu difficiles, à Nevers ou ailleurs.
Absolument d'accord. Dans ces cas-là, il aurait fallu faire du rural-rural. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous proposez une ville ? Non. Il fallait faire, pour faire quelque chose d'extrêmement différent, il fallait faire le rural. Le rural est extrêmement spécifique. Il faut une étude à elle toute seule pour la faire. Mais on aurait pu faire ce choix. On ne l'a pas fait. Mais on a aussi, si vous voulez, on y a pensé, mais il fallait qu'on divise les forces qu'on était aussi. Vous voyez, une étude, ce n'est pas seulement ce que vous voulez, c'est ce que vous pouvez réaliser. Mais je pense que la question des jeunes du rural est une question intéressante. D'ailleurs, elle intervient dans le quartier de la Plaine de Lys. Il y a un collège qui est à côté, enfin qui est proche, qui est Jules de Coury, et il y a un autre collège qui est un peu plus loin, et qui a, comme on est à la frontière du rural, il va rassembler, donc Jules de Coury, il rassemble tout le quartier même. Tandis que l'autre bahut dont je vous parle, dont je ne me rappelle absolument pas le nom, il y a tous les gens de la campagne hein, qui sont ramassés par des cars et qui viennent étudier. Et là, nous, on a une population qui est beaucoup plus mixte. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est de voir que les jeunes de Jules-le-Curry n'ont pas les mêmes goûts que les jeunes de l'autre établissement, parce que cette mixité entraîne un changement dans les choix et les objets culturels. Ça, c'est clair. C'est la seule chose qu'on a pu voir par rapport à ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Le rural, c'est une question en tant que telle.
Oui.
Alors, ma question va être très, très rapide. En fait, c'est des entretiens qui étaient menés sur la base de volontariat. Les jeunes étaient volontaires pour répondre à vos questions.
Ah oui, on les chopait de façon aléatoire dans la rue.
Est-ce que vous avez eu des refus ? Et si oui, combien en fait par rapport à la masse ? Parce que
comprendre, avec les garçons c'est différent qu'avec les filles, parce que les garçons sont en visibilité dans l'espace, mais pas les filles. Donc pour les garçons c'était pas un problème, on proposait des refus, on a eu quelques-uns. Alors, c'était justifié. Alors, il y avait un espèce de ras-le-bol qu'ils n'étaient pas des animaux de foire, parce qu'il y a dû avoir plusieurs émissions télé sur la banlieue, machin, etc. On a dû venir. Ils en ont ras-le-pompon, ça, c'est sûr. Donc, ça, on s'est fait virer. Il n'en est pas. Pour cette raison-là, essentiellement. Et s'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas. Pour les filles, ça a été plus compliqué, parce que les filles, elles ne sont pas en visibilité sur le territoire. Donc, il fallait trouver une fille, trouver ses copines, qu'elle passe le mot à d'autres filles. Enfin bon, ils n'utilisent pas les mêmes espaces à l'intérieur du quartier. Donc, et aussi c'était pareil, on expliquait toute notre démarche en disant que ce serait anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne saurait absolument pas que c'est eux qui ont parlé, et que s'ils ne voulaient pas, il n'y avait aucun problème. Et qu'en tous les cas, on ne leur demanderait pas des choses. C'était aussi important de les rassurer. J'ai vu que ça avait un rôle important de leur dire, on ne va pas vous demander de nous parler des choses privées. Et ça, c'était important pour eux.
On parle des filles et des garçons.
Oui, c'est très différent.
Justement, est-ce qu'il y a des choses notables que vous avez remarquées ?
La passion du foot chez les filles, c'est extraordinaire, quoi. Je suis restée un peu comme ça, donc c'est pas une différence. Mais bon, c'était quand même parlant. Alors, quand vous demandez, parce qu'il y avait tout un passage dans le questionnaire, c'est quoi la différence entre les filles et les garçons ? Tout le monde a dit c'est pareil, il n'y a pas de différence. Je me suis dit waouh. Alors, vous les laissez parler, et comment, et pourquoi, etc. Et donc, ça parle. Et puis, oui, mais les filles, c'est quand même pas pareil. Alors, les filles, elles aussi, elles disent que les garçons, c'est pas pareil. Alors là, on arrive au stéréotype tout à fait classique, que les filles, elles se maquillent, elles s'habillent, elles achètent des fringues. Et que les garçons, ce qu'ils aiment, c'est se taper dessus, donc faire des choses un peu de coq. Qu'est-ce qu'il y avait ? Donc on arrivait au stéréotype, mais j'étais très étonnée, mais vraiment très étonnée de deux choses. La première, qu'il y ait autant, parce que c'est un âge, en tous les cas 13, 14, 15, où ils sont très souvent peu rassemblés garçons et filles. Ben là, non. Les garçons parlent aux filles, les filles parlent aux garçons. Il y a pas de... J'étais vachement étonnée. Et deuxième chose qui m'a énormément étonnée, c'est qu'il n'y avait pas, et ça, ils ont pratiquement tous et beaucoup insisté là-dessus d'une façon ou d'une autre, parce que nous avions des questions qui pouvaient leur laisser le loisir de pouvoir s'exprimer, c'est que nous étions devant un nombre de nationalités, de couleurs, assez importantes. Et la question du communautarisme n'existe pas. Et je pense que la question du communautarisme n'existe pas dans ces quartiers-là, parce que c'est des quartiers de première génération où la solidarité de l'ensemble est beaucoup plus importante. Je pense que sur Villejuif, ce sera différent. Donc ce sera aussi une façon aussi de pouvoir mesurer. Mais là, c'est clair. Qu'on soit de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur, où on est sympa ou on n'est pas sympa, quoi. En gros, c'est ça. Bon, c'est pas idyllique hein, non plus. Hein. C'est, par exemple, si vous leur demandez quelle est la différence entre les riches et les pauvres, il n'y en a pas. Hein. Donc, ils n'ont pas de lecture politique non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'ont pas de lecture qui leur permette d'analyser non plus. Moi, j'étais étonnée. Il n'y a pas de représentation de qui sont les dominateurs, les dominés. Et en même temps, ils l'ont. C'est quelque chose d'extrêmement... difficile à capter. Parce que, par exemple, ils disent toujours « nous, on est normaux ». Nous, on est ni riches ni pauvres. Nous, on est normaux. Nous, on vit dans des conditions normales. Il n'y a pas de vision qui permette de lire les antagonismes par rapport aux classes sociales, etc. C'est clair. C'est fou.
Je voulais juste vous dire que votre étude, déjà merci beaucoup parce que ça permet de casser en profondeur les préjugés et tout ce qu'on peut avoir. Et ça me fait surtout penser à une journaliste qui s'appelle Nadjet, qui travaille à France Info, qui fait des reportages récurrents qui s'appellent « Raconte-moi ton quartier ». Je pense que lorsque vous aurez des résultats quantitatifs, il serait vraiment intéressant de vous rapprocher d'elle parce qu'elle sera tout à fait en mesure de mettre en valeur votre étude et vos travaux parce que je pense qu'ils le méritent. Merci.
Merci à vous, mais ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est à quel point... Je veux dire, moi, je vois à quel point les adultes sont importants pour eux. Parce qu'on a l'impression que parce qu'ils sont acteurs, que parce qu'ils ont accès à travers le web, les différents web machins, etc., ils n'ont pas besoin d'adultes, absolument pas. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est un point sur lequel je veux revenir. Et par exemple, le travail des bibliothécaires en témoigne. Il a été extrêmement important pour ces jeunes-là. Donc la question, c'est comment on les accompagne. Et ça, c'est effectivement, à mon avis, une question très compliquée, surtout les ados. Quoi. C'est une question compliquée qui peut se gérer. Mais justement, j'irai voir la bibliothèque et je ferai un petit travail avec eux pour savoir qu'est-ce qui les a amenés à réaliser ça. Et comment est-ce qu'ils... Parce que je pense qu'ils ont dû se tromper plusieurs fois, essayer plusieurs choses, etc. etc. Je pense... Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point ça, je veux dire, le rôle des adultes et des adultes culture, entre guillemets, des acteurs culturels est extrêmement important. Quand je vois le rôle de cet espace jeune est extrêmement important et c'est un lieu où c'est extrêmement, ils peuvent rentrer et sortir, mais c'est extrêmement rigoureux au niveau des règles à l'intérieur. Je veux dire, on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent, exactement comme à la bibliothèque aussi, hein.
Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci aux intervenants, enfin aux intervenantes essentiellement, hein, et à l'intervenant. Je termine juste par une petite annonce pour une journée d'études qui s'inscrit un peu dans cette réflexion sur... les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est la journée d'études qui a lieu le 4 juillet, dont on n'a pas beaucoup donné de publicité jusqu'à maintenant, mais les inscriptions sont en ligne, au CGET, au Commissariat Général à l'égalité des territoires, donc à Paris, qui aura lieu le 4 juillet et qui porte sur la question des bibliothèques et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quatre sites seront représentés, Reims, Roubaix, Vaux-en-Velin et également Plaine Commune. Voilà. Et une présentation de l'étude sur les bibliothèques et les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera faite en matinée. Le deuxième point, c'est, ben voilà, nous regrettons l'absence d'Élodie Hommel, donc je pense qu'on reprogrammera son intervention un peu plus tard. Elle s'inscrivait tout à fait dans le fil de ce qui vient de vous être présenté. La journée d'études pour la captation audio sera disponible sur le site web de la BPI, dans la rubrique professionnelle, hein, et je crois que c'est dans la rubrique bibliothèque dans la cité, mais c'est assez facile à retrouver. Et vous retrouverez tous les PowerPoints aussi qui ont été présentés. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite bien des choses pour la suite, quels que soient vos environnements. À bientôt, au revoir.